La revue de presse de Stéphane Leneuf. Bonjour Stéphane.
Bonjour. Ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. À la une du Parisien ce matin, le bilan de 6 mois de présidence Macron. 6 mois au pas de charge, explique le quotidien. Pendant sa campagne, écrivent Myriam Menkawa et Pauline Thévenot, le candidat avait promis une révolution. Et à l'heure du premier bilan, la réponse est claire. Oui, Emmanuel Macron réforme à grands pas, sans réelle opposition, mais sans convaincre non plus. À première vue, écrivent mes deux consoeurs, tout lui sourit. La croissance pourrait approcher les 2%, l'opposition est inaudible. Les syndicats désunis, même Jean-Luc Mélenchon le concédait récemment, c'est lui qui a le point. Macron fait passer ses réformes au pas de charge, une rapidité justifiée et assumée. Au nom de quoi on attendrait ? Attendre, c'était le luxe des générations précédentes, explique le secrétaire d'État Benjamin Griveaux. Pourtant, il n'y a pas eu d'état de grâce, poursuit le Parisien, et comme ses prédécesseurs, il a dû en rabattre de sa révolution réformatrice, notamment sur les routiers sortis de la réforme du Code du travail pour éviter les blocages, ou encore la sélection à l'université. Quant à son fameux « et en même temps », écrivent mes deux consoeurs, il trouve ses limites, le clivage gauche-droite n'étant pas mort, surtout quand le gouvernement touche à l'ISF ou rabote l'aide au logement. Seulement attention, prévient le socialiste Jean-Pierre Mignard qui l'a soutenu pendant la campagne, il faut s'adapter au rythme de la société, y compris ceux qui claudiquent. Le Parisien dresse donc un tableau des 50 dossiers faits, pas faits, lancés ou modifiés, et ce qui n'était pas prévu, notamment le naufrage d'APB et le cadeau empoisonné du Conseil constitutionnel qui a retoqué début octobre la taxe des 3% sur les dividendes des entreprises. Réforme au pas de charge, je vous le disais, et ce n'est pas prévisiblement de s'arrêter quand on lit la grande interview de Muriel Pénicaud dans le journal du dimanche. Cette semaine débutent en effet les discussions sur la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage. On ne se limitera pas à une réformette, explique la ministre du Travail. Là aussi, le gouvernement veut aller vite pour mettre en place une flexi-sécurité à la française. Pas question de traîner. Le gouvernement veut un accord avant la fin janvier.
Voilà, donc on a bien compris Macron qui veut aller vite. Et en voilà un, maintenant, qui sort du bois brusquement pour applaudir à son action. C'est Dominique Strauss-Kahn.
Absolument. L'ancien directeur général du FMI s'est exprimé hier en marge d'une table ronde de la World Policy Conference, une conférence mondiale qui portait notamment cette année sur l'Amérique et le monde un an après l'élection de Trump. Éloigné de la vie politique, Dominique Strauss-Kahn continue tout de même à s'intéresser à l'actualité française. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas perdu le sens de la petite phrase qui fait mouche. L'élection d'Emmanuel Macron, explique-t-il, a créé une sorte de tremblement de terre dans la vie politique française. Et ce parti qui est le mien, le PS, je le dis avec tristesse, il n'a pas su accompagner la mondialisation. Il est donc temps qu'il disparaissent. Le temps est venu, explique Dominique Strauss-Kahn, de renouveler le centre-gauche français. Macron n'est ni gauche ni droite, poursuit DSK. Je voudrais qu'il soit de gauche et de droite, car c'est une bonne chose que les deux puissent travailler ensemble. L'ancien ministre de l'économie estime que si Emmanuel Macron saisit bien sa chance, il peut faire en 5 ans beaucoup de changements en France qui n'ont pas existé pendant ces 30 années. Cela peut être la période de grande transformation.
Et des transformations, eh bien, on en trouve ce matin à la une du journal du dimanche avec ce plan d'économie secret des députés.
Les députés au régime. Le bureau de l'Assemblée doit examiner mercredi le premier volet d'un plan d'économie tous azimuts. Un plan draconien de serrage de boulons dont la genèse remonterait, tenez-vous bien, à une histoire de douche. Arthur Nazareth et Christine Olivier racontent ainsi dans le JDD que Florent Bachelier, premier questeur de l'Assemblée, c'est-à-dire c'est celui qui tient les cordons de la bourse, eh bien il a failli s'étrangler en recevant le devis de réfection d'une salle de bain de 9 mètres carrés dans un des appartements privés du Palais Bourbon, montant 30 000 euros. Le jeune député de La République En Marche se renseigne alors sur les prix pratiqués habituellement dans ce quartier. C'est 10 000 euros maximum, lui explique un de ses amis, même dans le très chic 7e arrondissement de Paris où se trouve l'Assemblée. Bien au-delà de cette histoire de salle de bain, l'élu en déduit donc que des économies s'imposaient à l'Assemblée nationale et qu'elles devaient devenir exemplaires. Exemplarité pour les retraites des députés. Au régime commun, leurs allocations chômage, au régime commun, leurs frais de mandat, mais aussi les privilèges des anciens présidents. Objectif 10 millions d'économies en 2018, 15 millions par an sur le reste de la mandature.
À lire également dans le journal Le Monde cette fois, un long article signé Olivier Faye, un article qui décrit comment les instances du Front National et Marine Le Pen inclus persistent à faire de la sourde oreille contre des cadres qui pratiquent l'intimidation et le harcèlement moral.
Oui, un homme est sur la sellette dans cet article. Axel Lousteau, conseiller régional d'Île-de-France, homme de confiance de la présidente du FN. Il est accusé par une ancienne collaboratrice de harcèlement moral après avoir proféré des menaces à son encontre. Accusation que nie bien sûr l'élu qui se retranche derrière le respect de la vie privée. Une situation dont la jeune femme s'est ouverte à Nicolas Lesage, le directeur de cabinet de Marine Le Pen. Aucune réponse, et à Marine Le Pen elle-même qui a confirmé au Monde que c'était une affaire qui relevait de la vie privée. Et vie privée peut-être, sauf que cette affaire n'est pas la seule au Front National, puisqu'une conseillère régionale d'Île-de-France, Aurélie Cournet, a porté plainte contre l'un de ses collègues, Pierre-Charles Cherrier, son ex-amant. Il l'aurait frappé lors d'une dispute en marge d'une séance plénière. L'homme n'a toujours pas été sanctionné. Front National, des femmes menacées, la direction sourde, c'est à lire dans Le Monde.
D'autres informations, en bref, relevées dans la presse de ce dimanche.
Oui, on termine toujours à propos de harcèlement dans le JDD. 100 femmes célèbres en appellent à Emmanuel Macron dans une lettre qu'elles ont toutes co-signée, dans laquelle elles demandent un plan d'urgence contre les violences faites aux femmes. Monsieur Macron, êtes-vous de notre côté? Se demandent, entre autres, Florence Foresti, Anne Jaoui, Colline Serrault ou encore la chanteuse Imani. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller assister au départ aujourd'hui de la Transat Jacques Vabre au Havre, grand coup de vent dans le Parisien qui nous embarque à bord du maxi trimaran volant du favori Sébastien Josse, sensation garantie. Et enfin, on lira avec plaisir dans le JDD les deux pages consacrées au bouclier des princes, le Louvre Abu Dhabi, déclinaison du musée parisien qui ouvrira ses portes le 11 novembre après 10 ans de chantier de polémique où quand la culture devient un enjeu géopolitique, mais aussi une manne financière pour la France, c'est à lire dans le JDD.
La revue de presse signée Stéphane Leneuf.